La musique est de retour.
Salut à tous et salut à tous.
Bon.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Close up, take snap, hold up, take snap.
Oh, ok, vous ne faites pas d'erreur. Vous êtes bien connecté sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio. I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Décibel que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi de 18h30 à 19h sur votre radio associative libre sans pub Radio PFM. C'est Honorine aujourd'hui pour vous proposer cette émission consacrée entièrement à l'artiste Louisa Donna. Louisa Donna qu'on avait pu rencontrer lors du festival du Crossroad en septembre dernier avec Jean-François. Peu avant son concert. A noter que Louisa Donna est une féministe et psychologue. Vous pouvez retrouver un documentaire sur LCP dans l'émission Débat Doc qui consacre un épisode sur les violences conjugales, comment en finir, et s'est immergé dans l'association, l'Institut Women Safe qui accueille depuis 2014 les femmes victimes de violences, où on peut retrouver le travail de psychologue de Louisa Donna. Je vous souhaite une bonne écoute.
It has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
Alors, nous sommes avec Louisa Donna. Tu as une activité professionnelle à côté en tant que psychologue. Et puis, on peut aussi te nommer un peu féministe. Hein. Et tu viens de sortir un premier repas qui s'intitule Fragile, donc chez Caramba. Est-ce que c'est un lien finalement avec Madonna ? Pas du tout.
Pas du tout, non. Louisa Donna, ça n'a aucun lien avec Madonna. Le nom, il vient des Prima Donna. Et de Prima Donna, qui est un des albums de Marina and the Diamonds. Et les Prima Donna, c'est les premières cantatrices dans les opéras, généralement, qui ont des rôles de femmes qui se font bien zigouiller dans l'opéra par le patriarcat, toujours.
Donc, zigouiller dans quel sens ? C'est-à-dire
Généralement, les histoires des opéras, c'est toujours des femmes qui sont kidnappées, ou parfois violées, parfois tuées. Enfin, voilà, ça a toujours un peu des destins tragiques, quand même.
Alors, Louisa Donna, tu définis souvent ta musique de pop féministe brute. Que faut-il y comprendre, en fait, par cette pop féministe brute ?
J'aime bien parler de brute, dans le sens brutalité, parce que j'aime bien avoir un langage aussi cru que parfois les hommes se permettent d'avoir. Et pop féministe, parce que, je sais pas, parce que pour moi, dans le mot pop, il y a quelque chose de... Bon, je fais de la pop, je fais de la musique que je veux aussi être mainstream, avec des top lines qui restent dans la tête, et féministe, bah, parce que mon discours est féministe. Donc voilà, pour moi, ça résume bien mon projet en trois mots.
Alors, tu es une artiste complète, puisque tu es à la fois l'auteur, la compositrice, la productrice. Qu'est-ce qui te correspond le mieux dans ce processus de création ?
Et ben, je dirais la composition, parce que je suis pas productrice de mes titres, je suis coproductrice de mes titres, donc à chaque fois ils sont coproduits avec d'autres producteurs. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est la phase de composition, même s'il y a aussi une phase de production dans cette phase de composition. Mais ouais, je pense que c'est vraiment la compo, puis les textes aussi qui m'intéressent beaucoup, donc ouais, autrice, compositrice.
Alors Louisa Donna, de profession tu es psychologue et en particulier tu interviens auprès des femmes victimes de violences. Comment ce travail inspire-t-il tes créations ?
Eh ben, je pense que je suis habituée à entendre beaucoup, beaucoup de violences, mais surtout beaucoup d'injustices. C'est vraiment ça qui est au cœur de la prise en charge des femmes victimes de violences, à mon sens. C'est qu'on prend en charge des femmes qui sont pas non seulement victimes d'une violence, je veux dire, d'un mari sur elles, d'un auteur de violence sur elles, mais aussi d'un système qui ne les entend pas, ne les prend pas en charge, ne les accompagne pas comme il faut et ne fait pas condamner ces violences, donc ne reconnaît pas leur vécu. Et donc je suis habituée, malheureusement, à entendre beaucoup, beaucoup d'injustices et à en souffrir aussi parce que j'accompagne des personnes et que je souffre avec elles de ce que leur vécu n'est pas reconnu. Donc je pense que ça transparaît ensuite dans ma musique quand j'écris des textes engagés et en voulant essayer de porter un message un peu collectif, comme dans Trottoir qui parle du harcèlement de rue. Donc j'aborde des thèmes qui me sont arrivés à moi et que je peux me sentir légitime d'aborder, mais j'essaye d'exprimer quelque chose qui est d'un ressenti commun en fait dans ma musique.
Encore un autre garçon qui me prend pour une conne. Tu sais que j'ai pas joui, je te donne si tu donnes. Encore un autre silence, autre faux pas dans la danse. On s'amusait pourtant, pourquoi t'es plus marrant? Alors non, je veux pas sucer l'envie, tu m'as coupé. Non, c'est pas comme ça qu'on s'amuse à deux. Parce que là t'es tout seul, dis pas que je tire la gueule. Non, c'est pas comme ça qu'on s'amuse à deux. Je vais pas chercher à t'expliquer pour que tu comprennes que c'est pas. Banal. Alors non, je veux pas d'anal. Toi non plus, ça fait mal. Non, c'est pas comme ça qu'on s'amuse à deux. Parce que là, t'es tout seul. Dis pas que je tire la gueule. Non, c'est pas comme ça qu'on s'amuse à deux.
Tu exprimes finalement une sorte de patriarcat ou en tout cas une grosse inégalité qu'on peut ressentir entre les femmes et les hommes encore aujourd'hui, que ce soit en France ou bien un peu partout dans le monde. Si on parle finalement d'un de tes titres, tu expliques vraiment aussi la méconnaissance donc, du plaisir féminin. On peut voir ça dans ton clip à deux. Est-ce que tu peux me parler peut-être de ce clip aussi, de cette méconnaissance du plaisir féminin? qui a peu été inexistant dans certains pays. On ne reconnaît pas finalement la sensibilité féminine.
Alors oui, déjà surtout en France. La France au niveau européen est un des pays les moins bien classés au niveau de la jouissance des femmes. Donc oui, surtout en France. Alors du coup, oui, A2, c'est un titre qui parle de l'orgasme gap, qui est un terme sociologique qui décrit la différence qu'on peut constater, les sociologues, qu'on constate très facilement nous-mêmes tous les jours empiriquement, qui est que les femmes dans les couples hétéros jouissent moins que les hommes. Dans les couples lesbiens, les femmes jouissent aussi bien que les hommes dans les couples hétéros. Donc ça nous montre une chose, ça nous montre que c'est pas un problème organique, c'est pas un problème d'organes sexuels, un problème génital, mais un problème de pratique sexuelle. Et donc que c'est bien un fait sociologique. Hein, c'est pas, le clitoris serait plus difficile à stimuler qu'un gland. Donc voilà, à deux, ça parlait de ça, donc des hommes qui ne prêtent pas attention au plaisir des femmes ou des personnes à vulve, quoi. Ça parlait de ça.
J'y venais finalement à cette artiste plasticienne, puisque pour banaliser cet organe finalement qui est jamais anodin, donc qui est quelque chose qui reste toujours tabou aujourd'hui.
Oui, clairement, enfin la vulve, enfin elle reste tabou plus ou moins aussi selon les endroits du monde, ça c'est sûr. En France, il y a encore du travail à faire par rapport à ce qui a été fait largement par notamment des comptes Instagram et tout ça qui ont permis de rendre plus accessible déjà les façons de masturber cette vulve qu'on connaissait très mal. Tout le monde connaissait le signe universel de masturbation d'un pénis, mais personne ne savait vraiment ce que c'était que le signe universel de masturbation d'une vulve. Le clitoris, c'est un organe qui est complètement tabou, qui est mutilé dans beaucoup de pays. Il y a 200 millions de femmes victimes d'excision dans le monde. Ça en dit long sur à quel point cet organe, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, est tabou, soit mutilé réellement, soit complètement tabouisé et tue. Et voilà, donc on doit attendre 1997 pour avoir la première échographie d'un clitoris. Donc avant ça, on avait des formes plus ou moins proches, approximatives du clitoris, mais on n'avait pas la forme exacte du clitoris avant 1997. Donc, et on le voit entrer dans les manuels scolaires que dans un manuel scolaire sur 10 en 2017, et aujourd'hui on n'en a pas dans tous les manuels scolaires encore, et la médecine a complètement aussi oublié cet organe des manuels de médecine. Des fois on en parlait rapidement, puis après on n'en parlait plus, et puis voilà, c'est pas un organe qui est mentionné puisqu'on étudiait l'organe reproductif de la femme, mais pas son organe sexuel, quoi.
En juin 2021, tu as effectivement sorti ton EP qui est disponible en version CD livre à la FNAC. Ce qui est étonnant, c'est qu'il s'agit d'un CD accompagné d'un livre de 40 pages afin de mettre en avant d'autres artistes féministes et aussi en particulier de propager un message commun. Est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche ?
Ouais, bien sûr. Alors du coup, dans l'idée de la sororité, de la delphité, de vouloir aussi montrer d'autres œuvres, d'autres artistes, d'autres choses, je trouvais ça intéressant de montrer qu'on était plein à avoir le même message aussi à transmettre à travers l'art toujours. Parce que c'est comme ça qu'on peut transmettre plein de choses. Et du coup, il y a plein d'artistes, que ce soit des artistes plasticiennes, photographes, peintres. Il y a plein d'artistes différentes et différents. Puis sinon, il y a aussi des discussions avec des comptes Instagram où c'est un espèce de nid aussi d'informations, de communication. Enfin voilà, donc je trouvais ça intéressant de continuer en fait le livre avec l'exposition aussi d'autres artistes qui ont des messages aussi cool que beaux. Voilà.
200 000 ans sans clitoris, autant d'années avec des dessins de bits qui écrit l'histoire et la science. Une bande de flemmards en confiance. On nous a chassés comme des sorcières, on nous a violés dans toutes les guerres, on nous a brûlés pour adultère, on a trop souffert. Toi, et toi, et toi, t'entends juste que je parle de toi, et toi, et toi, tu cries juste pas moi, pas moi. Demain j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. Si tu veux des explications, demande-les à ton père. C'est fatigant d'être celle qui vocifère. Si t'as un moment, pense à prendre un manuel scolaire. Ils viennent d'ajouter le clito pour la première fois. Ça fait 20 ans qu'ils se font rembourser leur Viagra. Ils viennent de découvrir l'endo. Chapeau les gars, on a
plus écouter. On est juste la moitié de l'humanité. Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir coexister. Mais dès qu'on parle, on a l'impression de gêner. On lutte, mais y'a rien à faire. On meurt parfois juste parce qu'on l'a ouvert. Tu fais des blagues, t'appelles ça second degré. Moi j'ai juste envie de pleurer. Et toi, et toi.
Dans une des interviews que j'avais pu entendre de toi, tu parlais des violences sexuelles au sein des festivals. Comment est-ce que tu vois cette situation? Et finalement, tu es programmé aussi dans un festival. Est-ce que tu y vois un enjeu? Est-ce que tu te vois avoir un rôle concret peut-être aussi?
C'est intéressant, oui, j'avais notamment dénoncé, je sais plus en quelle année c'était, le Hellfest Festival avait organisé un festival et avait fait un communiqué de presse absolument odieux suite au fait qu'une victime de viol avait parlé de son viol sur Facebook en disant qu'elle cherchait des personnes témoins, voilà, des personnes qui auraient pu voir, reconnaître l'individu et tout ça. Et puis eux, ils avaient fait un espèce de communiqué de presse, mais affreux, où déjà ils décrédibilisaient la parole de la victime en parlant d'agression sexuelle plutôt que de viol. Ensuite, ils disaient qu'ils avaient eux-mêmes mener une enquête pour, auprès de la police pour savoir si une plainte avait été déposée, comme si une plainte équivalait à la réalité d'une violence. Enfin, si c'était le cas, on serait super heureuse, hein, parce que pour l'instant, il n'y a que 10% des plaintes pour viol qui sont condamnées. Donc si une plainte pour viol égalait à un viol, on serait très contente, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà, donc du coup, ça avait été absolument terrible, ce truc-là, et j'en avais fait un communiqué de presse à l'époque. Je suis pas assez renseignée sur tout ce qui se passe. Je sais que de plus en plus de festivals mettent en place des endroits de prise en charge des violences, des victimes de violences, des plateformes d'écoute, des plateformes de, voilà, avec des médecins et tout ça. Mais voilà, je sais pas. Après, ici, ce que je trouve intéressant déjà, c'est que l'équipe d'accueil, il y a une femme pour l'instant dans ce que j'ai vu. Donc déjà, c'est un univers très masculin, encore une fois. Donc voilà, on sait jamais comment les choses peuvent être vécues. Tout. Bon, voilà, j'ai vu que des hommes très gentils et j'ai à me plaindre d'absolument rien du tout. Hein, je suis pas là, mais ouais, c'est toujours intéressant de regarder sociologiquement comment les choses sont construites et qu'est-ce que... voilà, s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont faits pour que les victimes puissent se sentir en sécurité? Enfin voilà, c'est toujours les mêmes sujets, quoi.
Justement, en parlant finalement de la féminisation de ce milieu, j'ai vu que tu t'entourais de pas mal de femmes, hein, finalement, dans tes projets de clips. Est-ce que tu peux en parler finalement de tel genre ou tel genre? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que finalement c'est des affinités artistiques?
Alors oui, le female gaze et le male gaze, ça existe, hein, c'est décrit de façon sociologique, donc c'est réel en fait. Le male gaze ou le female gaze, c'est simplement le fait que si tous les artistes d'une culture sont des hommes, par exemple, et vont construire, créer de l'art à partir de leur vécu, on n'aura accès qu'au vécu de ces hommes. C'est ce qu'on reproche notamment au festival qui jusque-là, voilà, sélectionnait que des réalisateurs, pas des réalisatrices. Enfin, dans le cinéma, dans la musique, pareil, pendant très longtemps, c'était des compositeurs qui écrivaient pour des femmes, et puis les femmes écrivaient très peu. Je vous donne des exemples un peu larges comme ça, mais l'idée c'est que en fait, des femmes aussi puissent écrire, ou même des auteurs de livres, qu'on puisse avoir accès au vécu de femmes. Donc par exemple, Zola qui va décrire la prostitution dans Nana, ça va pas être la même écriture si c'est une femme qui raconte ce que c'est. Enfin voilà, on va pas avoir la même identification au personnage, on n'aura pas les mêmes points de vue sur le monde selon l'auteur ou l'autrice qui écrit ou qui crée. Et donc oui, après, moi je m'entoure de femmes parce que c'est un projet. Enfin, mon projet est féministe et s'adresse aussi à des femmes ou à des personnes queer et s'adresse aussi à des personnes qui sont pas forcément au centre justement du regard qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ça qui m'intéresse de faire. Comme quand je partage le travail d'autres artistes féministes, le but c'est justement qu'on partage nos regards, qu'on montre comment on perçoit le monde et ce qu'on vit de ce monde, quoi. Enfin voilà.
J'ai encore rêvé d'alien. J'ai encore rêvé de dans mon corps si frêle. J'ai encore grondé plus fort qu'un fleuve. J'ai des amis qui m'aiment quand ils peuvent. J'ai encore crié trop fort ma rage. J'ai encore fait trop peur. Je suis sortie de ma cage. J'ai vraiment aucun filtre. Mes émotions ne sont pas dociles. Mais est-ce que c'est vraiment si grave? Est-ce que vraiment je dois calmer cette rage? Est-ce que c'est vraiment si grave? Est-ce que vraiment je dois calmer cette rage qui me fait
J'ai pu voir que, en parallèle de cette EP et puis de ces clips, pendant le confinement ou en tout cas avec les réseaux sociaux, tu avais fait choisir finalement à des internautes des thèmes sur toujours des stéréotypes féminins qui sont un petit peu tabous, hein, si on peut parler de ça. Donc, tu as fait une chanson par exemple sur le poil, sur les pilules, etc. Est-ce que tu peux revenir finalement sur cette interaction avec ces thèmes?
Oui, alors les mini-compos, l'idée c'est de demander à ma communauté sur Instagram de choisir les thèmes sur lesquels je vais composer. Et ensuite, à partir des thèmes qu'elles ont choisis, qu'elles me donnent des anecdotes, elles, pour que j'écrive à partir de ça. Et ce que je trouve trop intéressant dans cet exercice, c'est que c'est une façon directe de créer à partir du vécu des personnes. Donc c'est ce que j'essaye de faire en fait à la base, c'est d'écrire aussi un vécu qui serait commun. Et donc là, clairement, bah, j'ai le vécu direct des personnes auxquelles je veux m'adresser, donc c'est intéressant. Et ce que je trouve cool aussi, c'est que ça me permet d'assouvir quelque chose que je ne peux pas réaliser en tant que psychologue, quand j'entends beaucoup de violence et beaucoup de choses que je trouve graves. Je suis tenue au secret professionnel, ce qui est tout à fait normal parce que sinon personne, enfin voilà, moi j'aurais pas envie d'aller me confier à une psychologue qui raconte plein de choses, logique. Mais voilà, ça a cette frustrant qu'en fait des fois je me dis mais la situation est tellement grave qu'il faudrait que tout ça se soit su de tout le monde quoi, et c'est pas possible. Enfin voilà, moi je suis tenue au secret et c'est très bien comme ça. Mais là du coup ça me permet de partager. Enfin c'est des personnes qui ont le désir quand elles me communiquent des choses que je les partage. Donc voilà, donc ça me permet de partager de façon générale des vécus de personnes qui peuvent être voilà, victimes de, soit de micro-violences, soit d'autres choses. Mais voilà, par exemple, bah, parler du vécu sous pilule, qu'est-ce qu'on ressent quand on prend la pilule, la baisse de la libido, le fait qu'il faille y penser tous les soirs, c'est super chiant. Enfin voilà, c'est des personnes qui me partagent ça et moi je le mets en chanson après, quoi.
Et finalement, est-ce que ça t'a permis, donc cet exercice-là, de d'écrire peut-être de nouveaux textes pour un nouvel EP ?
Je pense que oui, c'est possible. Je ne sais pas encore très bien. Là, je suis en train d'écrire la suite, donc c'est en pleine réflexion. Il y a certains titres que j'aimerais, voilà, je sais pas, que je vois pour la suite, d'autres non, mais voilà, c'est en pleine réflexion pour la suite.
Ce qui m'a interpellée sur la pochette de l'album qui s'appelle Fatigue, c'est une sorte de domino où les lettres de fatigue finalement tombent. Est-ce que tu peux me parler peut-être de ce que ça signifie ?
C'est une représentation dans les lettres de la fatigue avec des lettres qui se cassent la gueule et qui tombent. Fatigue, je l'ai choisie parce que réellement, je suis très 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 fatiguée de façon générale parce que j'ai trois jobs de psy et à côté je suis artiste et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais surtout dans mon travail de psy, ce que je vois au quotidien fait que quand je rentre le soir, je m'écroule dans un lit et je dors parce que quand on voit des violences, c'est très 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 prenant psychologiquement pour les personnes qui reçoivent ça. Des fois il y a des situations d'urgence qu'il faut gérer très rapidement. Enfin voilà, donc il y a des choses où voilà, le soir quand je rentre, je m'écroule quoi. Et du coup c'était pour parler de cette fatigue là qui est une fatigue physique presque normal et puis surtout bah voilà la fatigue qu'on a d'être témoin de ça au quotidien, d'être témoin qu'il y a une inaction étatique par rapport à la prise en charge des violences qui crée de la souffrance qui est insupportable à regarder quoi.
Les textes qui vont arriver seront quelque chose soit de plus militant ou en tout cas qui aurait une lueur d'espoir sur la gente féminine ou la gente humaine au global.
Bah, la lueur d'espoir on l'attend tous, hein, avec je veux dire ça, si le gouvernement fait des choses à un moment donné, oui, mais après non, je pense que mes textes ils resteront collés au réel quoi. Enfin, je pense que je suis quelqu'un de très vrai. Je saurais pas être en dehors de ça, donc tant qu'il y aura pas de lueur d'espoir dans la réalité, je crois pas que ce sera possible.
Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ton EP, etc. Et puis un site internet.
Oui, l'EP il est sorti chez BMG, mon label, et Caramba c'est mon tourneur. Et ben du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis la plus active, et sinon sur Facebook.
Clitoris, autant d'années avec des dessins de beats qui écrit l'histoire et la science. Une bande de flemmards en confiance. On nous a chassés comme des sorcières. On nous a violés dans toutes les guerres. On nous a brûlés pour adultère. On a trop souffert. Toi et toi et toi, t'entends juste que je parle de toi. Et toi et toi, tu cries juste pas moi, pas moi. Demain j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. Si tu veux des explications, demande-les à ton père. C'est fatigant d'être celle qui vaut s'y faire. Si t'as un moment, pense à prendre un manuel scolaire. Ils viennent d'ajouter le clito pour la première fois. Ça fait 20 ans qu'ils se font rembourser la Viagra. Ils viennent de découvrir l'endo. Chapeau les gars. On a crié 100 000 fois. Et toi, et toi. De l'humanité, tout ce qu'on demande c'est de pouvoir coexister. Mais dès qu'on parle, on a l'impression de gêner. On lutte, mais y'a rien à faire. On meurt parfois juste parce qu'on l'a ouvert. Tu fais des blagues, t'appelles ça second degré. Moi j'ai juste envie de pleurer. Et toi, et toi. Je parle de toi.
C'est sur ce titre Fatigue, titre éponyme du premier EP de Louisa Donna, que se termine cette émission Décibel de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez à l'écoute de votre radio associative, Radio PFM. Salut.